Jean-Paul Siret, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes le PDG d'Elena Santé. On va parler de vos résultats semestriels et puis des perspectives. Sur le semestre, tous les indicateurs sont en progression?
Oui, puisque notre chiffre d'affaires, vous l'avez pu remarquer, à hauteur de 231 millions d'euros, c'est une progression de plus de 7%. Notre EBITDA, effectivement, à 28 millions, est en progression aussi pratiquement de 7%. Et notre résultat net, à plus de 11 millions d'euros, est en progression aussi de 5%. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ces performances, c'est surtout le fait, à partir de ces différents résultats, le cash flow que ça peut nous donner et nos capacités à pouvoir se développer, puisque en deux mots, c'est 130 millions d'euros de dispo, 70 millions d'emprunts non tirés, donc c'est encore 200 millions d'euros dont on peut disposer pour poursuivre le développement.
Sur les différentes activités, justement, entre les EHPAD, entre les cliniques, comment évolue le portefeuille?
Le portefeuille, dans les EHPAD, c'est 93% de nos EHPAD qui sont en régime de croisière aujourd'hui, hein, ce qui ne va pas durer avec le futur développement, mais aujourd'hui c'est le cas dans ce S1. Dans le cadre effectivement des soins de suite, des cliniques de soins de suite, là, on a des résultats effectivement qui ont certes progressé, mais on a une petite différence parce que nous livrons en 2019 quatre nouvelles cliniques. Donc, on était sur des départs d'anciens sites et puis de l'adaptation avec des capacités nettement plus importantes sur les nouveaux sites. Et ceci a pesé légèrement négativement dessus, mais ça nous donne de belles perspectives pour 2020, puisque là, on va se retrouver en 2020 plutôt avec 80, là aussi 5 à 10% de nos soins de suite qui seront en régime de croisière. Côté HAD, là, les performances sont excellentes parce que côté HAD, on est aussi à plus de 85% en régime de croisière. Et là, on a bien réussi à modéliser ce nouveau métier que l'on fait déjà, certes, depuis 6-7 ans, qu'on a mis du temps à modéliser. Mais aujourd'hui, je dirais même dans un débat pas plus tard que lundi matin avec des centres hospitaliers, on nous faisait remarquer que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui disent qu'on est franchement excellent dans la modélisation qu'on a pu faire de l'hospitalisation à domicile parce qu'on répond vraiment à leurs souhaits et aux souhaits des différents médecins.
Oui, parce qu'il y a toujours, voilà, on le sait en France, un sujet de le nombre de lits disponibles et il y a un vrai sujet de fond, je dirais, qui est rappelé régulièrement.
Oui, et je dirais dans l'HAD, si on veut faire très simple, l'HAD n'a pas été mise en œuvre et développée tel qu'il aurait dû être. Puisque quand on parle d'hospitalisation à domicile, on est un hôpital à domicile. Et vous avez aujourd'hui, je n'en sais rien, 80-85% des HAD en France qui fonctionnent 5 jours par semaine et seulement jusqu'à 18h le soir. Donc effectivement, la réaction des médecins hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, est de dire non, mais attendez, on envoie quelqu'un en HAD le mercredi, il revient le vendredi soir pour être hospitalisé avec le principe des urgences. Hein. Vous savez, les urgences, on sait le pourquoi à peu près il y a une telle désorganisation dans les urgences. Donc l'HAD, non. Et il est évident que nous-mêmes, quand on a modélisé le premier établissement, et ils sont tous modélisés dessus, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en discutant avec un centre hospitalier, là aussi, il y a quelques jours, ils sont venus chez nous pendant des semaines comprendre comment on fonctionnait et eux n'y arrivaient pas. Et ça a été la clé, ça a été de dire, mais il doit y avoir une organisation, puisqu'en HAD, tous nos salariés, je dirais, sont en véhicule chez le patient. Donc une excellente organisation, géolocalisation importante pour les problèmes d'urgence en HAD, mais surtout un vrai service. On ne prend pas 5 jours jusqu'à 18 heures et ensuite on ferme le tout. Quel est le centre hospitalier qui oserait faire ça? L'EHPAD, la clinique de soins de suite? Eh bien non. Donc l'HAD doit fonctionner 24-24, 7 jours sur 7. Et là, effectivement, on arrive à bien modéliser et rendre un service digne de ce nom.
Dans votre communication semestrielle, je vois que vous parlez de télémédecine. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Est-ce que ça s'installe petit à petit? On commence à voir effectivement dans certaines régions la télémédecine qui se met en avant.
Alors, on parle de télémédecine, on parle effectivement, y compris d'innovation. On va en parler cet après-midi, effectivement, en SFAF. Tout simplement, et restons très modestes, mais rappelons que notre plan Grandir Ensemble 2022 a été écrit en 2018, suite à notre plan Grandir Ensemble 2013-2017, et que dans la vision que l'on avait long terme, hein, on essaie de regarder toujours la même chose, les besoins. Et que lorsque l'on regarde, quelle que soit sa position dans le monde de la santé, qu'on soit opérateur, qu'on soit pouvoir public, lorsque l'on parle des besoins, on risque, entre guillemets, de parler le même langage. On se rend compte aujourd'hui que les problématiques qui sont soulevées dans l'évolution du secteur de la santé correspondent assez bien à ce que l'on a écrit dans le plan Grandir Ensemble 2022. C'est-à-dire, on disait quoi? On disait tout simplement, y compris côté personnes âgées, c'est un patient différent. Il est hospitalisé par le biais des urgences, on le sait, contrairement à d'autres personnes moins âgées qui n'arrivent pas obligatoirement aux urgences pour être hospitalisées. Deux, il reste trop longtemps dans le centre hospitalier parce que son gros problème, c'est souvent l'isolement ou alors l'incapacité à domicile de trouver une solution. Donc, on passe par les urgences, taux d'hospitalisation plus important chez la personne âgée et puis qui reste plus longtemps. Donc là, on comprend très bien toute la problématique que peuvent avoir les urgences et le court séjour. Donc, on avait dit quoi, nous, à l'époque? On avait dit, il faut déjà que les EHPAD soient de plus en plus médicalisés. Eh bien, aujourd'hui, 80% de nos EHPAD ont ce qu'on appelle la dotation globale avec une PUI, sont totalement médicalisés. On a des infirmières de nuit dans 70% de nos établissements et on a de la télémédecine dans 20% de nos établissements. Tout ça, non seulement on avait prévu que toutes ces choses allaient se passer parce qu'on partait tout simplement des besoins, mais non seulement se passe, on l'a testé, on l'a mise en œuvre et ça fonctionne et ça permet, puisque si on a ces financements, c'est que l'assurance maladie a constaté qu'on avait des taux de réhospitalisation dans nos établissements beaucoup, beaucoup plus faibles qu'avant ou que chez nos collègues qui n'ont pas cette médicalisation.
Comment vous envisagez-vous les prochains mois? Quelles sont vos priorités sur les prochains mois? Il y a bien sûr les nouveaux lits, les restructurations, les nouveaux EHPAD.
Nos priorités, elles ne changent pas. C'est-à-dire, c'est toujours un développement maîtrisé qui va, oui, un peu s'accélérer, puisqu'on a des opérations aujourd'hui qui vont se déboucler d'ici la fin de l'année, mais toujours avec le même modèle. C'est-à-dire qu'on reprend un établissement. Alors là, on va en reprendre un qui va être dans notre cible. Alors ça, effectivement, il faut assez souvent les chercher, puisque je rappelle, hein, les tailles, les organisations, on va reprendre une grosse clinique SSR qui va être dans notre cible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit peu de restructuration, mais déjà à la cible. Parce que très souvent, c'est 1, 2, 3, 4 établissements pour en faire un ou deux. Donc, la poursuite de ce développement, avec toujours la même chose. Quel est le besoin de restructuration? La restructuration commence où et va où, y compris la plupart du temps avec l'outil de travail complètement à reconfigurer. L'intégration des nouveaux salariés, parce qu'on va intégrer du public avec des statuts bien différents aux nôtres. Et là aussi, ce sera. Et là, de façon plus importante que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc, c'est un nouveau challenge. À nous de le réussir, puisque d'autres se préparent pour les années à venir. Petite idée de notre développement là, qui est en train de se déboucler d'ici la fin de l'année, c'est un tiers privé commercial, un tiers public associatif et un tiers en création. C'est-à-dire, lorsque l'on dit qu'il n'y a plus de création, eh bien si, lorsque l'on fait, on accompagne les pouvoirs publics dans des restructurations importantes pour lesquelles ils ont des besoins de restructuration, eh bien aussi en fonction des besoins hospitaliers, on peut aller chercher, c'est vrai, de la création ex nihilo, la preuve en est, puisque pour nous, ça va être 30% environ de notre développement.
Merci beaucoup Jean-Paul Sireder d'avoir fait le point avec nous.
Merci, au revoir.